amplement l'heure des informations avec vous, Camille Manière. Bonsoir.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Donald Trump lâché par les siens sur l'abrogation de l'Obamacare. Les défections dans le camp républicain repoussent encore cette mesure pourtant si chère au président américain. Nous serons en ligne en début de journal depuis Washington avec Philippe Randé. Un scandale qui n'en finit pas de prendre de l'ampleur. En Allemagne, ce ne sont pas 200 mais plus de 500 jeunes garçons qui ont été victimes de sévices sexuels pendant un demi-siècle au sein d'une célèbre chorale catholique. Explication de Pascal Thibault depuis Berlin. En France, dossier particulièrement sensible que celui du meurtre de Sarah Halimi, cette femme de 65 ans, juive orthodoxe, torturée puis défenestrée par un voisin. Le jeune homme a été interné en psychiatrie. Il pourrait échapper à un procès, ce qui indigne la famille Halimi, nous dira Antoine Marette. Nous reviendrons également sur le sauvetage, pas si évident que cela, de l'équipementier auto GMS. Au moment de boucler le dossier de reprise, ça coince entre Bercy et PSA. C'est ce que l'on verra avec Anne-Laure Chouin. Et nous reviendrons également sur le bicentenaire de la mort de Jane Austen, la romancière britannique, chaste chroniqueuse de la bonne société victorienne, érigé au rang d'icône pop par Cécile de Kervas-Doué. À 18h15, le grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Eh bien Camille, on parlera d'université, tirage au sort, la pire des sélections. On en discute avec nos trois invités, Laurent Batch, Yves Saint-Omer et Lila Lebas.
À tout à l'heure. Un de plus, voici donc un dossier de plus sur lequel Donald Trump doit ravaler ses promesses de campagne. Celle-ci pourtant, c'était l'une de celles qui lui tenait le plus à cœur. Le président américain n'arrive décidément pas à imposer l'abrogation de l'Obamacare, cette couverture santé pour tous. Hier soir, encore deux sénateurs républicains ont annoncé qu'ils voteraient contre la réforme présentée par la Maison-Blanche. Nous sommes en direct depuis Washington avec Philippe Randé. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Deux sénateurs républicains de plus donc qui font défection, ça veut dire que la réforme de l'Obamacare n'a plus de majorité, est-ce qu'elle est enterrée pour autant ?
Oui, après des jours et des nuits à négocier dans les couloirs du Capitole, le chef de la majorité sénatoriale, Mitch McConnell, l'a confirmé lors d'une déclaration il y a 2 heures. Il ne sera pas possible de voter le texte sur la santé. Le parti républicain a beau avoir la majorité, les 52 sénateurs ne sont pas arrivés à se mettre d'accord pour obtenir les 50 votes nécessaires. Divisés entre modérés et ultra-conservateurs, 4 sénateurs ont donc refusé de voter. Du coup, que va-t-il se passer concrètement à partir d'aujourd'hui ? Eh bien, désormais, les républicains changent de tactique et vont essayer d'abroger l'Obamacare et de voter un nouveau texte plus tard, à l'issue d'une période de transition de 2 ans. Donald Trump ne peut pas se permettre politiquement de rester inactif. Cette réforme de la santé était sa première promesse de campagne. Cet échec est un gigantesque camouflet pour le 45e président des États-Unis. Du coup, le vice-président Mike Pence en personne est monté au créneau tout à l'heure et il a utilisé des mots très durs contre le Congrès. Il faut abroger l'Obamacare maintenant et remplacer la loi plus tard. Mike Pence qui a clairement mis la pression sur les sénateurs républicains, je cite « L'inaction n'est pas une option, le Congrès doit faire son travail maintenant. Seul problème, les républicains vont avoir besoin des démocrates qui, eux, ont expliqué qu'une abrogation pure et simple serait un désastre qui priverait de couverture santé des millions d'Américains. »
Les États-Unis, merci Philippe Randé qui confirme des nouvelles sanctions contre l'Iran à peine 12 heures après avoir prolongé l'accord sur le nucléaire iranien. La Maison-Blanche renforce donc ses mesures de rétorsions administratives et économiques contre 18 personnalités de Téhéran. La plupart sont liées au programme de missiles balistiques iraniens et au corps des gardiens de la Révolution. L'Allemagne, à présent confrontée à un scandale encore plus vaste qu'elle ne l'avait craint. Il concerne ce scandale des violences, agressions sexuelles commises pendant près d'un demi-siècle sur des enfants. C'était au sein d'une véritable institution catholique en Allemagne, le cœur des moineaux de la cathédrale de Ratisbonne. Un cœur fondé il y a plus de 1000 ans, où ce ne sont donc pas 230 mais plus de 540 petits chanteurs qui ont été victime de ces sévices entre 1945 et les années 90, Pascal Thibault.
La prison, l'enfer, un camp de concentration, les termes utilisés par les anciens membres du chœur de Ratisbonne pour décrire leurs sévices témoignent du traumatisme subi par les victimes. Des victimes bien plus nombreuses qu'on ne le pensait. Le rapport présenté parle de 547 cas de violences corporelles et sexuelles depuis la fin de la guerre jusqu'au début des années 90. Des faits qui sont prescrits ne donneront pas lieu à des poursuites pénales contre les 49 auteurs présumés. Mais les victimes seront indemnisées par l'évêché de Ratisbonne qui versera entre 5 000 et 20 000 euros à chaque personne concernée. L'auteur du rapport estime que l'ancien responsable du chœur, Georg Ratzinger, Le frère de l'ancien pape Benoît XVI n'était pas au courant des agressions sexuelles subies par des membres du chœur, mais avait fermé les yeux sur les violences physiques endurées par d'autres. Un responsable de l'évêché de Ratisbonne a reconnu que des erreurs avaient été faites après les révélations sur ces affaires. Il a plaidé pour une réaction plus proactive de l'Église à l'avenir. L'enquête critique la position réticente de l'évêque de Ratisbonne, Gerhard Müller, jusqu'à il y a peu préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican. Cette affaire fait écho à d'autres scandales de pédophilie au sein de l'Église catholique. En Allemagne, des révélations il y a quelques années sur des agressions sexuelles subies dans les années 70 et 80 dans un lycée jésuite très connu de Berlin avaient elles aussi choqué.
Pascal Thibault à Berlin pour France Culture. C'est une affaire qui soulève beaucoup d'indignation en France. Cette fois, elle remonte cette affaire au début du mois d'avril. À Paris, Sarah Halimi, 65 ans, était torturée puis jetée par la fenêtre du troisième étage par un voisin. Tout cela aurait pu n'être qu'un fait divers sordide, traité comme tel d'ailleurs par la justice. Si toutefois la victime n'avait pas été de confession juive et le meurtrier présumé, un délinquant qui avait dérivé vers l'islam radical. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Le suspect a été mis en examen la semaine dernière et depuis la nuit du crime, il est interné en psychiatrie, il pourrait donc échapper à un procès.
Et pour l'avocat de la partie civile, Kobili Traoré n'est pas fou, il a agi de façon rationnelle, motivé par son antisémitisme. Sauf que le caractère antisémite n'a pas été retenu lors de sa mise en examen. Une situation incompréhensible pour Maître Buchinger, avocat des enfants de Sarah Halimi.
L'assassin Traoré connaissait parfaitement sa victime, il savait pertinemment qu'elle était juive pratiquante, et c'est la raison pour laquelle il a décidé de pénétrer dans son appartement en passant par le balcon voisin, la surprendre dans son sommeil, la torturer de façon absolument sauvage, en alternant les salves de coups avec la récitation de sourates du Coran, ponctuée d'Allahu Akbar, traitant la malheureuse de Shatan, le Shatan étant le Satan en arabe. Et lorsqu'il l'a traînée aux abords du balcon, avant de la défenestrer, il a eu la présence d'esprit de simuler le suicide de Madame Halimi, en criant « Attention, une femme va se jeter par la fenêtre ».
Et pour la partie civile, ce dernier élément montre que Kobili Traoré n'était pas dans un état de démence. Une conclusion contestée par l'avocat de la défense, Maître Bidnik.
Que je sache, mes excellents confrères ne sont pas psychiatres, moi non plus. Et donc, je ne vois rien dans tout ce qu'ils décrivent qui rend impossible la démence, tout comme je ne vois rien qui la rend certaine. On attend une première expertise psychiatrique. Je ne vois pas comment on peut être aussi affirmatif sur le plan psychiatrique. Du côté de la défense, on n'ignore pas l'émotion que peut susciter l'acte reproché à M. Traoré et singulièrement l'émotion dans la communauté juive. Simplement là, le problème est qu'on juge un homme et que c'est extraordinairement complexe. Et que je crois qu'il faut se garder d'amalgame et essayer de se préserver de l'émotion.
On devrait connaître les résultats de l'expertise psychiatrique d'ici le mois d'août. Si Kobili Traoré était considéré pénalement irresponsable par le corps médical, il n'y aurait alors pas de procès.
Antoine Maret, merci à vous. Accusation d'antisémitisme, c'est loin d'être une première fois pour cette fois. Jean-Marie Le Pen, le président d'honneur du Front National, renvoyé en correctionnel. Il sera donc bien jugé pour provocation à la haine raciale. Et ça concerne des propos tenus en 2014 dans une vidéo publiée sur le site du FN. Il avait évoqué le chanteur de confession juive, Patrick Bruel, avec ces mots « On fera une fournée la prochaine fois ». Justice et politique, là encore avec le parquet de Paris, qui élargit son enquête préliminaire concernant les soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires au Parlement européen. Après le Modem, les Républicains et le PS, c'est la France Insoumise et plus précisément Jean-Luc Mélenchon qui est concerné par l'enquête. C'est cette fois encore sur la base de dénonciations faites par le Front National, Christine Monclin.
Jean-Luc Mélenchon sort à peine de sa conférence de presse à l'Assemblée nationale. Sa collaboratrice lui fait lire l'article du Parisien qui révèle que la justice a donc élargi son enquête préliminaire à trois de ses anciens assistants.
Non, je découvre ça en même temps que vous.
Aucun de mes assistants ne travaillait pour le parti de gauche, assurera-t-il un peu plus tard. Son ami, le député Alexis Corbière, se place aussitôt sur le terrain politique.
Une fois de plus, ce sont des lettres de dénonciation et des dénonciations de l'extrême droite française. Et que dans cette famille politique-là, on a l'habitude des dénonciations. Des pratiques de corbeau, et ça nous laisse assez tranquille. Non, il n'y a aucun problème.
Au moment de l'enquête sur les eurodéputés du Modem, c'est la même élue du Front National, Sophie Montel, qui avait dénoncé les postes présumés fictifs. Elle avait alors fourni à la justice toute une liste d'élus du Modem, donc, mais aussi PS, LR et Europe Écologie Les Verts, et à présent trois assistants de Jean-Luc Mélenchon. Tous sont soupçonnés d'avoir été payés par l'Europe pour travailler en réalité pour leur propre parti. Sophie Montel a agit ainsi pour briser, dit-elle, le deux poids deux mesures dont serait victime le FN. Le parti de Marine Le Pen ayant déjà dans ce dossier 17 enquêtes en cours et 4 mises en examen, dont Marine Le Pen elle-même et deux de ses assistants.
Christine Monk, la dernière heure de négociation est toujours d'importantes tensions autour du projet de reprise de l'équipementier automobile GMS. La société GMD, qui est seule candidate à la reprise, soumettra demain son dossier au tribunal de commerce de Poitiers. Elle indique pourtant ce soir que toutes les conditions suspensives ne sont pas levées. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Camille.
Tout cela n'est pas très rassurant, d'autant que depuis hier soir, les discussions semblent s'être tendues entre Bercy et PSA, qui est impliqué dans le dossier de reprise, à tel point qu'on ne sait pas trop si le montage financier va bien pouvoir être examiné demain à Poitiers.
Oui, des discussions qui se sont tendues autour d'une somme, 5 millions d'euros, 5 millions, qui pourraient bien saper tout le travail qu'a fourni Bercy pour tenter de sauver GMS. Vendredi, vous l'avez dit, le tribunal de commerce doit se prononcer une dernière fois pour valider ou non le projet du seul repreneur en lice, GMD, une entreprise de Saint-Étienne, qui s'engageait jusqu'ici à reprendre 120 des 277 salariés de GMS. Mais à plusieurs conditions, notamment en termes d'investissement, et c'est là que tout pourrait bien capoter. GMD, dont le PDG Alain Martineau est réputé être excellent industriel, mais intraitable en affaires, a en effet réclamé 15 millions d'euros d'investissement, 5 millions de l'État qui a accepté, 5 millions du donneur d'ordre, Renault, qui a accepté également, et 5 millions du groupe PSA, qui aurait refusé, selon Bercy. Notez bien là l'emploi du conditionnel, car PSA affirme de son côté qu'il investira bien, non pas 5, mais 4 millions d'euros, comme cela a toujours été prévu. Les négociateurs du ministère de l'économie s'insurgent. Selon eux, ces 4 millions d'euros ne sont en rien un effort supplémentaire, mais un investissement habituel dans des machines et des moules qui doivent de toute façon être achetées pour produire de futures pièces. PSA rétorque que GMD n'avait de toute façon ni demandé ni besoin de 5 millions d'euros supplémentaires et que toute cette affaire est délibérément ourdie par l'État avec l'aide de Renault. À ce point-là de l'histoire, il faut rappeler que les relations entre PSA et l'un de ses principaux actionnaires, l'État, sont extrêmement tendues. Ceci explique peut-être cela. En tout cas, cette histoire d'accusation et de démenti ne va pas encourager les acteurs, et notamment GMD, à se démener pour aider une entreprise dont ils n'espèrent de toute façon pas grand-chose en termes de rentabilité.
Et j'ajoute, Anne-Laure Chouin, que depuis ce matin, une centaine de salariés de GMS bloquent les accès à l'usine Renault de Villeroy dans l'Yonne. Blocage qui, selon la CGT, sera maintenu jusqu'à la décision du tribunal de commerce de Poitiers sur la reprise par GMD. Décision attendue, vous l'avez dit, vendredi. C'est un réseau de passeurs inédits qui a été démantelé hier près de Calais. Deux Britanniques arrêtés alors qu'il s'apprêtait à envoyer des migrants albanais vers l'Angleterre en avion. Le coup de filet a eu lieu sur le tarmac de l'aérodrome de Marc, Pas-de-Calais. Donc, le pilote était déjà aux commandes de l'appareil quand les policiers sont intervenus. Il a lui aussi été placé en garde à vue. Ce n'est pas donné à tout le monde de devenir une icône pop deux siècles après sa mort. 200 ans aujourd'hui que la romancière britannique Jane Austen s'est éteinte à l'âge de 41 ans et jamais son œuvre n'a suscité autant d'engouement dans la culture populaire. Cécile de Kervas-Douai, c'est vrai qu'on ne compte plus les adaptations d'Orgueil et Préjugés, de Raison et Sentiment au cinéma, à la télévision, et ça va bien au-delà encore.
En France, le succès de Jane Austen est arrivé plus tardivement, peut-être qu'ailleurs, avec cette adaptation de Raison et Sentiment, dont vous entendez un extrait, Raison et Sentiment de Ang Lee en 95. Mais partout ailleurs dans le monde, Jane Austen a un succès retentissant depuis des décennies, avec des adaptations de ses romans, tant au théâtre qu'au cinéma, à la télévision, en bande dessinée, en livre de paralittérature, puisqu'on a par exemple des versions de Pride and Prejudice en version polar, des films Bollywood et même en films de zombies. Jane Austen se lit, se regarde, se danse aussi avec des balles de danse anglaise organisées par exemple à Paris ce mois-ci. Mais surtout aujourd'hui, Jane Austen se discute sur les forums via des web-séries interactives très prisées des jeunes pour qui Jane Austen, la romancière, est finalement devenue un art de vivre. Et c'est ce qu'expliquera ce soir à l'université de la Sorbonne à Paris Nicolas Watson. Elle est professeure de littérature anglaise à l'Open University, spécialiste mondiale de Jane Austen.
En Europe, certains pourraient penser que l'art de faire la cour est complètement désuet. Le succès de Jane Austen prouve que c'est toujours d'actualité. Et je pense que c'est parce que son œuvre voit le monde du point de vue de la femme, et en plus avec un style bien particulier, une ironie, des traits d'esprit, un sens du comique et du drame qui est intemporel. Moi, je pense aussi que Jane Austen, même du temps de son vivant, a plu parce qu'elle incarne une forme bien particulière d'un passé, confortable d'avant la révolution industrielle, avant que le monde ne se mette à avoir peur de la modernité au XIXe siècle.
Et elle rajoute, c'est aussi ce qui explique le succès commercial mondial de Jane Austen, qui est devenue une marque à succès avec cette consécration. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne vient de sortir un billet de 10 livres à son effigie.
Cécile de Kervas-Doué, je sens que Raphaël Bourgois est fan de Jane Austen. En film de zombies, j'en sens que ça vous a intéressé.
Ah oui, c'est sûr.
Allez, un mot de météo enfin, avec désormais 10 départements en alerte orange, Normandie et Aquitaine. Alerte orange donc pour des orages localement violents ce soir. Alerte levée par contre pour la Bretagne. Ce journal était réalisé avec Jean-François Braun et c'est Stanislas Vazak qui vous présentera l'édition de 22h.